Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'International, émission réalisée en liaison avec Radio France Internationale et le quotidien français Le Monde. Vous êtes sur les antennes mondiales de TV5 et nous recevons aujourd'hui le Premier ministre du Luxembourg, un jeune Premier ministre, Xavier Bettel. Merci de nous accueillir ici même à Luxembourg. Nous allons faire connaissance, parler de la réputation internationale du Luxembourg. Certains parlent d'une place fiscale qui manque beaucoup de transparence. Je n'ai pas cette image, on va parler de ce qui se passe dans votre pays, dans les élections européennes, et j'aurai le plaisir de conduire cet entretien avec Sophie Malibaud, ma consoeur de Radio France Internationale. Peut-être un mot, nous sommes au Grand-Duché du Luxembourg, on a un peu regardé pour préparer l'émission, pour tout vous dire, il n'y a pas d'autre Grand-Duché au monde, vous êtes le seul.
Point de vue pays, oui.
Oui.
Point de vue pays, il n'y a pas d'autres grands-duchés. Vous savez qu'il existe d'autres grands-ducs,
oui.
Mais grand-duché, il n'y en a qu'un, et c'est celui du Luxembourg.
Alors, on pensait venir dans un pays qui avait une santé économique insolente. Nous allons découvrir que il y a aussi du chômage, il y a une dette qui a progressé. Néanmoins, par rapport au 28, vous faites plutôt partie des pays qui se portent bien économiquement. Vous n'avez pas trop de difficultés.
C'est pas pour ça qu'il faut rien faire et qu'il faut se reposer sur ses lauriers et se dire que ça repartira un jour au mieux. Je vis pas d'espoir, je vis de réalisme.
Ce que je propose aux téléspectateurs et auditeurs, donc des RFI de TV5 Monde, c'est de faire connaissance avec vous-même. Le mot qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un Premier ministre quelque peu atypique, peut-être à l'image de ce pays, une diversité culturelle, précoce en politique. Hein, vous étiez étudiant lorsque vous êtes devenu député. On regarde ce portrait.
On l'appelle Monsieur 100 000 volts. Il ne marche pas, il court presque, Xavier Bettel. Il est passé par là. Il repassera par ici. Il parle vite en plus et comme beaucoup de ses concitoyens, en luxembourgeois, en allemand, en anglais ou en français, il switch, comme on dit, d'une langue à l'autre, qui a un problème.
Nous avons besoin aussi de personnes qui sont dévouées aux valeurs démocratiques.
Des personnes dévouées aux valeurs démocratiques, Xavier Bettel les a trouvées pour constituer en quelques jours sa coalition gouvernementale ralliant la gauche à la droite. Historique, il est aussi l'homme du grand écart, aucun complexe chez cet Européen convaincu, encore moins quand il s'agit de faire entendre la voix de son pays, certes pas très grand, mais influent.
L'Allemagne, la petite voix du Luxembourg, a le même poids que la petite voix de l'Allemagne.
Le nouveau Premier ministre nommé par le grand-duc du Luxembourg n'a pas la langue dans sa poche et aime surprendre là où on l'attend le moins, dans la lutte au niveau européen contre l'évasion fiscale par exemple. Ce libéral décomplexé a promis contre toute attente de faire de son pays une place bancaire transparente.
On commence quand même à en avoir marre, qu'on considère que le pays est juste un pays qui abrite des gens qui veulent fuir et des capitaux et quoi que ce soit. On a signé plus de 60 d'engagements avec d'autres pays. Arrêtez ces clichés qui, je pense, sont plus là pour nuire au Luxembourg qu'autre chose. Et...
Sa précipitation va de pair avec un certain courage en politique. Il a très tôt affirmé dans ce pays plutôt conservateur son homosexualité et plaidé pour le mariage gay. Une loi est d'ailleurs en cours. Xavier Bettel défend aussi le droit à l'euthanasie. Bref, cet ancien avocat de 41 ans a surtout le sens d'une certaine justice humaniste.
Moi, je suis un vrai melting pot. J'ai un grand-père polonais, une grand-mère russe, un grand-père luxembourgeois, une grand-mère française. J'ai un grand-père juif, une grand-mère orthodoxe, un grand-père catholique et une grand-mère athéiste. Et moi-même, je suis homosexuel.
Alors il est surtout populaire, Xavier Bettel, toujours tiré à quatre épingles. Jeune et plutôt bel homme, il est l'un des premiers ministres les plus appréciés de l'histoire du Grand-Duché, rivalisant même avec Jean-Claude Juncker, son illustre prédécesseur. Xavier Bettel, c'est le nouveau visage d'un petit pays profondément européen qui veut faire entendre sa voix.
Voilà pour ce portrait. On en retient, avant de commencer l'entretien avec Sophie Malibaud, vous êtes un libéral. En France, vous êtes plutôt classé au centre ou à droite, mais vous dirigez une grande coalition. Vous avez choisi d'être complètement atypique dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites.
C'était en fait les partis avec lesquels on avait le plus de points communs pour faire un programme qui allait aussi dans la bonne direction. On voyait juste à la veille des dernières élections législatives qu'il y avait un problème avec le parti de M. Juncker. Et on a vu après les élections législatives...
Qui lui a resté 20 ans au poste que vous occupez aujourd'hui.
Oui, mais bon, les élections font que des fois il y a des changements, même au Luxembourg.
Bien sûr.
Et les chrétiens sociaux, après les élections même, ne comprenaient pas. Ils étaient là pour dire, bon, on va faire une coalition avec qui, et puis qui va se soumettre. Et c'était pas le but. On devait avoir une nouvelle politique. Vous me dites... libéral, ce qu'il y a, c'est que En France, je vais vous dire honnêtement que je suis quelqu'un qui suis plutôt centre-droite point de vue économique. Je suis contre l'assistanat à outrance, je suis pour le fait de motiver les gens, de responsabiliser les gens, mais je suis pour toutes les questions de société plutôt à gauche, qu'on le qualifie
en français. C'est proche de Valls, le nouveau Premier ministre français, par exemple.
J'ai pas eu encore l'honneur de le rencontrer, donc je pourrais vous le dire après l'avoir rencontré, mais et donc question de société plutôt à gauche, pour l'euthanasie, pour l'avortement, pour le mariage gay, etc. etc.
Du point de vue des attentes sur le changement de politique, votre prédécesseur a lui-même estimé que finalement... Il n'y avait pas tellement de changements en vue. Il y a eu beaucoup d'échanges d'amabilité entre vous deux, d'ailleurs. Et lui a estimé que, finalement, ce que vous proposiez, pour l'instant, vous ne reniez pas la politique qu'il a lui-même appliquée.
Alors, je dois tout d'abord vous avouer qu'il est, en effet, pour un pays comme le Luxembourg, où il serait suicidaire de dire qu'on veut tout changer du jour au lendemain, point de vue finance, point de vue économique, point de vue droit du travail, etc., etc. Il y a bien sûr, on peut pas, et je fais aussi, j'étais chef de l'opposition, je fais partie de ces gens qui peuvent vous dire que l'opposition actuelle, donc la majorité d'hier, a fait aussi du bon boulot dans certains dossiers, et qu'il faut arrêter de dire, maintenant on vient, on annule tout ce qui a été fait auparavant. C'est faux, et je ne supporte pas non plus ce cliché de toujours dire ce qui vient des uns ou des autres est mauvais. Il y a une certaine continuation, la place bancaire, quand on parle de secret, de transparence, je pense qu'on va en parler de toute façon.
Ne faites aucune illusion, on y arrive.
Je m'y attends. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été amorcé déjà par le précédent gouvernement, et qui est continué par ce gouvernement. Alors de nous reprocher de ne pas faire une fracture et de tout vouloir changer, non.
Mais il y a certaines choses... Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau ?
Mais plein de choses. On a des points de vue questions de société. La loi sur l'avortement, par exemple, quelque chose que... Avec les chrétiens sociaux, on obligeait la femme à aller voir un toubib et après le toubib d'aller voir une association pour expliquer pourquoi elle voulait avorter. C'est pas normal. Mmh. C'est une décision personnelle.
Vous avez vu l'Espagne qui fait marche arrière.
Oui, mais je ne commande pas ce qui est fait dans d'autres pays. Moi, je suis Premier ministre au Luxembourg. Mais on doit se mettre au diapason des réalités de nos jours. On a une politique... Et ce qui est très important, juste parce qu'on parle de questions de société, ce qui est important, c'est qu'on parle de ça. Moi, je vais vous dire que la chose la plus importante que nous allons faire, et qui n'était pas fait auparavant, c'est de reprendre les finances publiques en main. Alors ça, on en parle, vous dites, oui, est-ce que c'est une cassure ou pas une cassure? On a eu une dette publique qui n'a cessé d'augmenter. Et ça, j'en veux plus.
Elle a augmenté de x10 en 11 ans, c'est à peu près ça.
Et à politique,
elle reste raisonnable. Hein.
Oui, mais vous savez, être raisonnable, tout dépend aussi de ce que vous avez
autour. Bien des pays, vous l'envirez, c'est ce que je veux dire.
Oui, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable. Au Luxembourg, il faut comparer, il faut voir sur quoi est basée l'économie, la possibilité que ça puisse changer ou quoi que ce soit. Donc moi, je ne veux pas être... Vous savez, faire de la politique ne veut pas dire être le chouchou des sondages. Moi, je préfère faire de la politique en me disant que je risque de perdre des points. Là, j'ai fait des scores, j'étais à 83-84%, ce qui est extraordinaire. Mais je n'ai pas de problème de diviser par deux s'il le faut, si je suis convaincu que les décisions que je dois prendre avec mes collègues au gouvernement sont les décisions importantes pour ce pays.
Alors, et si la demain, dette publique, je dois chuter, où est-ce que vous allez rogner pour réduire cette dette publique?
Partout.
Coup de rabot partout.
Partout.
C'est la bonne méthode de raboter un petit peu partout plutôt que de cibler certains secteurs plus.
Vous savez, si vous faites certains secteurs, vous avez dans un pays, surtout comme un petit pays comme le Luxembourg, où la cohésion sociale est quelque chose de très important, vous allez donner l'impression de cibler l'un par rapport à l'autre. Vous allez cibler les jeunes par rapport aux vieux, vous allez cibler les fonctionnaires par rapport aux employés privés, vous allez cibler les plus riches par rapport...
Voilà, alors
c'est sûr que les épaules plus
riches
larges,
par rapport aux plus larges
contribuent plus. Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord. On va pas prendre à celui qui n'a déjà rien, mais l'effort doit être collectif. C'est ça ce qui est important. Il faut arrêter de dire on fait une politique contre cela. On veut faire une politique pour le pays.
Peut-être un mot de commentaire sur ce qui se passe en France. Vous parlez de popularité. François Hollande bat des records d'impopularité. Hein, 18% derrière lui. Son Premier ministre, votre homologue, lui, au contraire, 40 points de plus. Vous trouvez que cette politique dite de rigueur, telle qu'elle est qualifiée, en tout cas de grande vigilance, vous pensez que c'est bien pour la France et c'est bien pour la France dans l'Europe ?
Alors c'est bien pour nous tous. Hein, je dois vous dire, la politique de rigueur n'est pas le bon terme. Ce que je pense, c'est qu'on doit faire une politique plus prudente, on doit arrêter de dépenser de l'argent.
Il faut se désendetter, en tout cas, c'est ce que vous dites.
Vous savez, vous-même, quand vous avez plus de sous, vous avez l'huissier qui passe à la maison et qui vend ce qui vous reste.
L'huissier, c'est quoi ? C'est Bruxelles aujourd'hui ?
Non, l'huissier, c'est tout simplement... Aujourd'hui, l'huissier, c'est les banques, c'est les entreprises internationales. C'est tout simplement, je veux dire, pas les banques maintenant qui vont nous sanctionner, mais le jour où je n'ai plus d'argent et je dois emprunter... Et je n'ai plus d'opportunité d'avoir d'argent. Qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve
en problème.
Donc vous, on a plutôt l'homme que l'on qualifie de droite ou de centre-droite, vous dites ce que fait François Hollande, l'homme de gauche en France, il faut le faire, c'est inévitable, c'est du bon boulot qu'il fait.
Si on pense à hier et à aujourd'hui, on ne serait pas obligé de le faire. Ouais. Mais si on pense à demain, on est obligé de le faire.
Et si les coupes dans les dépenses finissent par étrangler la reprise de la croissance, vous qui êtes un pays qui dépendait beaucoup de vos pays, des pays frontaliers dont la France, ça risque de vous poser des difficultés?
Je pense que l'effort, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut le faire à un très large niveau. Nous, on a commencé la TVA, je l'ai annoncé, c'est pas populaire, on augmente la TVA. Alors on me dit, oui, mais vous l'augmentez à 17%. Nous, on est à tel et tel pourcent. Mais je vais pas l'augmenter par plaisir, 4% de plus, pour me dire comme ça, je rentre plus d'argent. Il faut voir pour comment être compétitif, comment être attractif, comment avoir quand même, comment ne pas étrangler, comme vous dites exactement, aussi le contribuable. Et donc, il faut voir, vous avez la possibilité d'augmenter les recettes. Vous avez la possibilité de diminuer les dépenses et, ce qui est surtout très important, attirer. Et ça permettra aussi d'augmenter les recettes, d'attirer, d'être attractif, d'avoir des entreprises, des gens qui viennent investir dans votre pays. Trois, il faut trouver un mélange équilibriste entre les trois.
Pour l'instant, le cocktail en France, il vous semble adéquat ?
Il sera pas populaire en tout cas. J'ai entendu la déclaration de Monsieur Valls à la télé. Je pense que c'était une. Alors ça surprend. Alors vous allez avoir des gens de gauche qui vont vous dire c'est pas normal. On peut pas prendre. On doit tout laisser. Mmh. On ne peut plus aujourd'hui. Il faut. Ce qui m'énerve le plus en politique, je dois vous le dire honnêtement, c'est de dire qu'il y a des sujets tabous. Je ne supporte plus qu'on arrive à une table ronde, qu'on se met à table avec quelqu'un pour discuter de quelque chose, où on dit on ne peut pas discuter de ça, ça, ça et ça. On est dans une situation aujourd'hui, on doit pouvoir parler de tout.
Il faut faire les calculs. La position de la France d'avoir des sujets tabous quand elle est à Bruxelles.
Moi, je vous parle de Luxembourg.
Alors, parlons d'un chiffre, le chiffre des 3% du déficit du produit intérieur brut, c'est-à-dire ne pas dépasser cela. La France s'est engagée à revenir dans les clous, comme on dit, demande des sursis, demande à étaler un peu, à différer un peu ce calendrier. Vous dites, comme Élodie du repos en Belgique, finalement on n'est pas à 2 ans près, ou au contraire, il faut être rigoureux, il faut respecter ça pour qu'il n'y ait pas de bons et de mauvais élèves en Europe.
Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Il ne faut pas reporter. Si on reporte sinédié, on ne va jamais y arriver.
Donc le problème qu'il y a, c'est qu'on doit... L'orthodoxie budgétaire maintenant.
On doit montrer qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est ce qui est important. Je pense que les pays... Je comprends que certains pays ont plus de mal actuellement et vous allez avoir certaines personnes qui vont vous dire on ne peut pas étrangler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde. On va asphyxier notre économie, on va s'asphyxier nous-mêmes et par un cercle vicieux, ça va nous... En fait, avoir un effet encore plus négatif sur notre économie. Je suis convaincu que Bruxelles a demandé les chiffres. On a les 3% et on doit se diriger vers la bonne direction. Et s'il y a quelqu'un qui dit « je fais ça, 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 je ne peux pas faire plus », mais je ne suis pas non plus d'accord que selon la taille des pays, il y ait des exceptions. Oui. Ce n'est pas une Europe à géométrie variable selon la taille ou quoi que ce soit, mais on doit aller dans cette direction. Et je dois vous dire, ce n'est pas, il faut, et vous parlez de Bruxelles, ce n'est pas Bruxelles qui l'impose, c'est notre futur qui nous l'impose, c'est nos générations futures qui nous l'imposent.
Vous imputez la montée du chômage dans votre propre pays au Luxembourg?
Alors, il y a beaucoup de choses.
On rappelle 7%. À nouveau, c'est presque miraculeux. C'est presque le plein emploi dans d'autres pays.
C'est catastrophique pour nous, car on n'avait jamais...
C'est un chômage structurel.
C'est un chômage qui est
devenu
structurel.
L'Espagne à 20-25%, oui. On rappelle les chiffres.
7% est catastrophique. Bon, au départ, il y a déjà l'éducation. Ouais. On a un problème, c'est qu'on crée plus d'emplois chaque année au Luxembourg qu'il n'y a de chômeurs qui rentrent au chômage, mais le chômage augmente. C'est-à-dire que les gens ici ne sont pas formés pour ce qui est la demande sur le marché de l'emploi. Ça, c'est le premier problème. Mmh. Si on arrive déjà à faire ça. Et puis, vous avez l'ADEME, pendant très longtemps, je dois vous l'avouer, était assez mal, c'est notre administration de l'emploi, était gérée de manière à ce qu'on gère des dossiers, mais qu'on ne combatte pas le chômage. Et pour nous, c'est une priorité pour ce gouvernement. On ne gère pas des dossiers, on combat le chômage. Et ce n'est pas le numéro 3875, d'accord, le chômeur. C'est une famille, c'est une personne. Et il faut faire des démarches. Il faut aussi l'inciter. Vous savez, on a eu des mesures. Là, on a pris une mesure. On a déjà des syndicats qui râlent. Aujourd'hui, au Luxembourg, et vous voyez la taille du pays, vous aviez la possibilité de refuser un emploi parce que c'était trop loin. D'accord ? Trop loin. Vous connaissez la taille du pays, je le répète. On a dit en tant que gouvernement, on ne peut plus aujourd'hui dans ce pays dire je refuse cet emploi car c'est trop loin pour moi.
Et vos alliés socialistes ont laissé faire...
Le ministre du Travail est socialiste.
Ouais, d'accord.
On est un gouvernement réaliste. On a un gouvernement qui allie, c'est ça ce qui est bien, on a une composante sociale, une composante écologiste, une composante libérale, et les trois ensemble ont fait un programme pour ces cinq prochaines années qui est un programme réaliste qui colle aux réalités. Et c'est pas un programme de parti stricto sensu où chacun a son volet. Moi j'ai eu le volet social pour ça, moi j'ai eu le volet écologiste pour ça, moi j'ai eu le volet libéral pour ça.
C'est un
gouvernement qui a cette philosophie dans chaque sujet.
Vous êtes le
coordinateur, je suis le chef peut-être du gouvernement, mais c'est une équipe.
Voilà.
J'en ai
ras-le-bol
d'avoir une personne en haut qui est l'oracle de Delphes qui est là et qui, quand il parle, c'est ça ce qui est réalité. Je n'en veux plus.
Vous êtes élu pour 5 ans, oui. Vous allez travailler avec des socialistes, des écologistes, etc.
Mais avec tout le monde, je suis prêt à travailler avec tout le monde au Parlement, ça c'est mon gouvernement.
Vous allez travailler avec une coalition donc très large. Si vous échouez dans votre projet, si le chômage continue à augmenter, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, les électeurs, ensuite, ils se tournent vers les extrêmes.
Mais non, il y a encore Monsieur Juncker ne fait pas partie encore des extrêmes.
Ouais. Donc vous,
mais alors, mais chrétien social.
On a du mal quand même parce que
lui gens,
aussi a une conception très sociale.
On doit montrer aux gens qu'on veut le faire et qu'on va le faire. Je ne peux pas ouvrir des sociétés et donner aux gens des emplois tout simplement pour les occuper. Pour dire, vous avez un emploi maintenant pour que je baisse mon taux de chômage. Ça, c'est pas la politique que je veux faire. Mais on doit tout faire. On doit avoir donc, et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la TVA, avec avec toutes ces questions. On doit créer aussi de l'emploi. On crée aujourd'hui de l'emploi au Luxembourg, mais on n'arrive pas à placer des gens. Donc, il est important déjà d'avoir l'éducation. C'est tout un volet ensemble. Et je suis convaincu, ce gouvernement va tout faire. Et je suis content, déjà, ça se commence. Vous n'allez pas me dire, parce que ce serait hypocrite maintenant de vous dire, vous savez, moi je suis Premier ministre depuis 4 mois, maintenant le chômage y baisse. Ce serait hypocrite. C'est un sujet, il y a des choses en politique que vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain. Celui qui vous dit, avec moi en tant que président, je baisserai le chômage demain, c'est un menteur.
Le changement,
celui
c'est maintenant,
dit,
c'était pas un bon
celui
slogan,
qui
M. Bettel.
Je vous dire que pendant sa législature.
Pas les questions,
Et je termine, je suis poli, madame a posé une question. Quand vous vous engagez sur un terme, c'est comme les gens qui me disent, vous êtes Premier ministre depuis 100 jours, pourquoi il n'y a pas tous les résultats? Mais j'ai été élu pour 5 ans.
Des objectifs pour le chômage, comme en France, on avait décidé d'inverser la courbe du chômage avant la
Paris
fin 2013. Maintenant, on a un président qui affirme même que si jamais
il ne se représentera pas s'il n'obtient pas des résultats sur le chômage. Oui.
Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Une échéance?
Non. La prochaine échéance, c'est le 31 décembre 2014, sera le 31 décembre 2015, sera le 31 décembre 2016, sera le 31 décembre 2017, où je veux voir chaque année, mais bien sûr pas que le 31, ce sera chaque jour. Chaque jour de cette année sera une échéance où j'espère pouvoir réaliser quelque chose. Ce n'est pas pour vous dire maintenant, il est à 7%, je veux qu'il soit à 5,8 ou qu'il soit à 4,3 ou qu'il soit à 6,2. J'ai pas envie de faire de politique de chiffres comme ça.
Vous pensez que ça n'a pas de sens de mettre un objectif chiffré?
Et si demain il y a la guerre en Ukraine, vous ne croyez pas que ça va avoir des répercussions sur l'économie européenne? Alors, à quoi ça sert? Je n'ai pas une boule de cristal qui me permet de vous dire demain, le chiffre sera tellement. Je ne lis pas le marc de café. Je fais un travail au quotidien avec mes collègues au gouvernement pour faire le maximum.
Dans ce pays, près d'un habitant sur deux est étranger. Ça ne pose pas de problème en matière de montée des extrêmes ou de rejet de l'autre? Comme dans d'autres pays?
Non, je pense que le Luxembourg, s'il doit savoir d'où il vient et si aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est justement par ce melting pot, que ce soit les entreprises de savoir-faire. Le Luxembourg s'est fait à travers la place de l'Europe, à travers l'Europe qui s'est créée au Luxembourg, à travers ses échanges. Mais ce qui est important, c'est de surtout éviter qu'on ait des sociétés parallèles qui se créent. J'étais maire de cette ville pendant 2 ans, et en tant que maire, par exemple, j'étais assez dur, et ce n'était pas une politique du tout qui était contre l'étranger ou pour le luxembourgeois, mais je demandais, par exemple, parce qu'on avait des associations qui se créaient de foot pour portugais, de foot pour français. Et je ne veux pas ça. D'accord. Je voulais toujours qu'il y ait des choses qui se fassent ensemble. Parce qu'après, on va voir les enfants qui vont aller dans une école d'une telle nationalité. Ils vont aller chez les scouts d'une telle nationalité, pour faire le foot. Il n'y aura jamais ces liens, et c'est ça
qui font, qui font un pays. Alors, nous allons faire une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde pour faire le point de l'actualité. Restez avec nous, vous allez adorer la prochaine partie de l'émission. On va parler du Luxembourg paradis fiscal. Vous avez des tas de choses à nous dire là-dessus, j'imagine. Tout d'abord, l'actualité.